Merci d'écouter Inter, il est 18h17.
This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter. Le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Irak et au Bénin, deux pays à la une d'ailleurs dans le monde, le journal de l'International de Michael Thébault. La revue de presse des correspondants d'Inter passe cette semaine par Londres et Berlin avec Antoine Gignot et Cyril Sauvageau. Musique, Mathieu Culeron viendra nous parler du quatrième album de Valérie June. À 18h55, l'édito d'Anthony Bélanger, les Égyptiens se lancent à la conquête de l'espace. Mais tout de suite, on parle de l'Afrique des routes.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
L'Afrique des routes, c'est le nom d'une exposition qui se tient en ce moment au musée du Quai Branly à Paris. Très beau catalogue coédité par Actes Sud. L'Afrique des routes, histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées à travers le continent africain. Alors pour explorer, arpenter quelques-unes de ces routes, nous sommes ce soir en compagnie de Catherine Kokri-Vidrovic, que je salue. Bonsoir madame.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous êtes historienne, spécialiste de l'Afrique, professeur émérite à l'université Diderot Paris 7. Je l'avoue avec un peu de honte, mais je n'imaginais pas le nombre, la richesse, la variété de ces routes africaines. C'est la mondialisation avant l'heure. Hein.
Absolument, mais c'est bien ce que nous avons voulu montrer. Vous avez complètement compris ce que nous avons voulu faire. Montrer qu'il y a eu diverses mondialisations, des mondialisations qui ne couvraient pas l'ensemble du globe, comme aujourd'hui, mais n'empêche des systèmes très larges, très vaste, et que chaque fois l'Afrique subsaharienne, qu'on appelait dans le temps l'Afrique noire du temps de la colonisation, maintenant on l'appelle l'Afrique subsaharienne, faisait partie de cette mondialisation et elle jouait un rôle comme les autres, un rôle important et souvent un rôle moteur aussi.
Une question de méthode et de curiosité, d'où est venue l'envie de travailler sur un tel objet, la route ?
Ben c'est l'idée de la circulation, l'idée de que le continent, le subcontinent subsaharien surtout, dont on se fait une idée enfermée, où les gens ne seraient jamais sortis que contraints et forcés par l'esclavage, c'était en réalité un continent très ouvert. Et ce que je disais souvent à mes étudiants, c'est que les Européens croient qu'ils ont découvert l'Afrique, mais ils l'ont découvert 1500 ans au moins après les autres, c'est-à-dire les Indiens, les Perses, les Chinois, etc.
Alors encore une question de contexte avant de voir ce qui circule sur ces routes. Est-ce qu'il y a un mouvement spécifique à l'Afrique ou est-ce que les routes et une telle circulation existent un peu partout dans le monde, par exemple entre les 9e et 16e siècles qui sont deux bornes historiques qu'on trouve dans cette exposition? On circule tous quand même en dehors de l'Afrique, en Europe, c'est la même densité de circulation ou il y a quelque chose de strictement africain dans cette question?
Les Africains, depuis toujours, ont beaucoup circulé. On a circulé partout, mais les Africains ont beaucoup circulé. D'abord, ce sont les tout premiers à être partis de leur continent pour peupler le monde, à plusieurs reprises. Et puis, si on saute sur l'histoire proprement dite, c'est-à-dire vers 5000 avant notre ère et non plus quelques millions d'années, les Africains, effectivement, ont beaucoup circulé à l'intérieur de leur continent qui s'y prête parce que ou bien vous avez des pistes dans les savanes, vous n'avez pas de massifs montagneux, sauf en Éthiopie, un petit peu ailleurs, mais pas beaucoup. Et puis vous avez dans la forêt beaucoup de rivières, beaucoup de possibilités, beaucoup de pirogues. Et par conséquent, la circulation a toujours existé à l'intérieur et aussi sur les côtes.
Les hommes circulent donc, et avec eux quoi ? Des matières premières, pour commencer ?
Les hommes circulent, je dirais d'abord les langues. Ils se mélangent. Enfin, il y a un exemple, par exemple, qui est la langue swahili, qui commence à prendre forme au 8e siècle, qui est absolument une langue de la famille des langues bantoues, mais influencée par le perse, par l'hindi, finalement par l'arabe. Mais c'est plutôt en fin de course. Et c'est la langue des commerçants. C'est la langue de circulation qui est devenue aujourd'hui la langue parlée par pratiquement la moitié des Africains.
Et donc, on voit circuler, comme vous l'avez dit, des langues, mais aussi des matières premières, des idées. Comment une idée circule et comment on la trace ?
Ah oui, ça c'est une
bonne question.
Alors, si vous voulez, on a essayé de les pister par les objets, justement, en reconstituant la diffusion de certains types d'objets qui ne se trouvent pas partout, contrairement à ce qu'on pense. Par exemple, les masques. Les masques correspondent à un grand groupe linguistique, Congo-Bantou, donc d'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale. On n'en trouve pas ailleurs. On en trouve énormément dans cette zone-là, mais c'est uniquement dans cette zone-là. On l'a trouvé aussi, la circulation par les croyances, c'est-à-dire les poteaux funéraires. Les poteaux funéraires, on les retrouve chronologiquement, je dirais, depuis l'Indonésie jusqu'à l'Afrique orientale. Mmh. Et on peut voir aussi le chemin et la diffusion des idées, la diffusion des religions. Mmh. Évidemment, il y a toute une section sur les religions du terroir, leur circulation vers les Amériques. Et donc les interventions et les métissages culturels entre christianisme, religion du terroir et aussi islam. Et puis tout ceci a une histoire, tout ceci ne s'est pas passé en même temps. Vous avez d'abord les religions du terroir qui sont toujours restées, mais par-dessus, vous avez l'islam qui est arrivé, et puis la religion juive, on l'oublie en général, mais qui est arrivée en Éthiopie au tout début, probablement la première religion du livre qui est arrivée. Et puis, évidemment, surtout au XVIIIe siècle, avec les missionnaires, les protestantismes et le catholicisme, avec la colonisation essentiellement. Mmh. Sauf quand les Portugais ont converti le roi du Congo en 1491.
Alors précisément, on est obligé d'avancer à grands pas dans le temps. La période coloniale a-t-elle ralenti le rythme des circulations? Les a-t-elle empêchées?
Un des objectifs des colonisateurs, c'était de compter les gens, donc de les fixer, et pour leur faire payer l'impôt, pour les recruter comme travailleurs, etc. Donc, ils étaient contre la circulation. Ça les a pas, pendant très longtemps, ça les a pas empêchés de circuler et de circuler sans tenir compte des frontières coloniales qui ont commencé à exister vraiment à partir de 1890. Mais dans les années 1940 encore, dans le Sahel, les troupeaux et les bergers ne connaissaient pas les frontières. Et la colonisation est un épisode bref dans l'histoire africaine, très important évidemment, mais paradoxalement pas plus important qu'un autre. Je dirais, ce qui est très important par exemple dans l'histoire africaine, c'est l'or. L'or qui est l'Afrique, ce qu'on a essayé de montrer, était la grande productrice d'or pour l'Occident et pour l'océan Indien jusqu'à la découverte des Amériques.
Alors, pourquoi, là on arrive aujourd'hui, pourquoi avoir consacré un article à Johannesburg?
Parce que Johannesburg est le type même de la ville considérée comme une espèce de coupe-gorge. Alors Johannesburg est une grande métropole passionnante, qui présente effectivement beaucoup des caractéristiques de ces villes champignons, parce que Johannesburg est né avec l'or, l'or moderne, à la fin du 19e siècle. Et c'est une ville très organisée, en réalité, où les gens vivent très normalement, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se promener dans des quartiers pas sûrs à 2h du matin toute seule, ça évidemment. Mais ça, c'est vrai de toutes les villes. Johannesburg, maintenant, n'est pas du tout la ville la moins sûre du monde.
Mais ce sont des routes qui aboutissent dans cette ville, ou comment l'intégrer de l'Afrique?
On a voulu montrer qu'il y a eu des villes de tout temps, parce que les villes sont les étapes sur les circulations. Il faut que les gens s'arrêtent, mangent, dorment, aient des marchés, etc. Donc il y a toujours eu des villes, mais évidemment pas les mêmes. Les grandes métropoles, elles apparaissent à partir des années 50 et surtout depuis les indépendances, et elles ont augmenté d'une façon extraordinaire dans les 30 dernières années. Johannesburg est donc un cas, un cas qui a terrorisé les blancs de l'apartheid, parce que de leur temps, les Noirs n'avaient pas le droit de circuler. Et puis, au moment de la fin de l'apartheid, c'est-à-dire en 1990-95, qu'est-ce qu'ils voient? Tous les marchands qui s'installent dans les rues et qui vendent, ils ont été terrorisés. Ils ne l'avaient pas vu depuis un siècle. Enfin, c'était impensable. Donc, ça a donné une réputation terrifiante à cette ville où on vit, ma foi, comme dans une autre.
C'est vous qui signez l'article, hein, Catherine Cochry-Vidrovitch. Une question sur les routes d'aujourd'hui. Est-ce que les circulations en Afrique sont aujourd'hui aussi intenses? Et est-ce qu'on peut, si on superpose les deux cartes, voir sur les routes modernes, apercevoir à travers les routes modernes les routes anciennes?
Oui et non. Les routes modernes, disons, si on prend l'Afrique de l'Ouest, elles sont nord-sud plutôt, et les routes anciennes, elles étaient plutôt est-ouest. C'était les pistes, évidemment, c'était pas des routes. Parler de routes, ça ne veut pas parler de goudron, nécessairement. C'est très difficile de construire des routes, de conserver des routes en pays équatorial. Et donc, la circulation, paradoxalement, depuis les moyens modernes, disons, elle est peut-être moins simple que du temps où tout le monde marchait. Parce que là, tout le monde marchait, ou tout le monde prenait la pirogue, et donc il n'y avait pas de problème. Maintenant, il y a moins de pirogues, il y a moins de bateaux, paradoxalement, et il y a l'avion. Donc c'est tout à fait différent. D'ailleurs, dans l'exposition, nous montrons les différentes formes de mouvement. En dehors de l'Afrique, ben, y a une passagère qui prend l'avion de façon très normale. Et puis, il y a aussi, évidemment, les migrants tels qu'on les connaît dans les bateaux percés qui se noient dans la Méditerranée.
Alors, précisément, et ce sera ma dernière question, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'arrogance occidentale qui consiste à dire qu'aujourd'hui, les migrations, une partie des migrations sont sud-nord de l'Afrique vers l'Europe? Ça, c'est un mouvement de population important, vous l'avez dit à l'instant, mais ça fait écran à la richesse des circulations à l'intérieur même du continent.
Ah, bien sûr, parce que les migrations d'État à État, elles sont beaucoup plus importantes à l'intérieur de l'Afrique qu'à l'extérieur. Les migrations, les départs vers l'Europe, un pourcentage très faible des migrations vers l'Afrique du Sud, par exemple, ou vers... Dès que vous avez une zone insécure par une guerre civile, ben les gens s'en vont. Et les gens s'en vont d'une certaine façon plus facilement qu'ailleurs, puisqu'ils ont toujours bougé, justement, aussi. C'est pas quelque chose de tout à fait extraordinaire. Enfin, c'est très dur de s'arracher à son terroir, bien entendu. Mais, je veux dire, ce n'est pas impensable, dans la mesure où les conditions de vie n'étaient pas les mêmes qu'en Europe non plus.
Vous avez passé votre vie à arpenter les routes, les chemins et les pistes d'Afrique?
Ben, j'ai essayé, oui, avec tous les moyens de transport possibles, y compris à pied, justement, dans la forêt, en allant de trous de pattes d'éléphant à autres trous de pattes d'éléphant.
Et vous continuez à y aller ou pas?
Oui. Enfin, je ne fais plus ça, quand même. Mais je vais pour des colloques, je vais pour des soutenances de thèse, je vais pour voir des amis. Il faut y aller absolument quand on n'est pas africain ou africaine, si on veut comprendre, parce que ça change très vite maintenant, ça change extraordinairement vite. Et donc, j'y vais à peu près tous les 6 mois, et chaque fois je ne reconnais pas. Alors que, disons, entre les années 1970 et 1990, c'était beaucoup moins rapide.
Catherine Cochry-Vidrovitch, merci beaucoup d'avoir été au micro de France Inter. L'Afrique des routes, histoire de la circulation des hommes, des richesses et des idées à travers le continent africain. Coédition pour le catalogue Musée du Quai Branly, là c'est pour l'exposition, et Actes Sud donc pour ce livre magnifique. Samedi et dimanche prochain, un mot pour vous dire qu'au Quai Branly, un ensemble de manifestations aura lieu autour de l'ethnologie. L'ethnologie va vous surprendre, 2 jours pour explorer le 21e siècle avec des conférences, des débats, des projections. Allez-y nombreux, amis auditeurs d'Inter, c'est à Paris, c'est un très beau musée et vous pourrez sans doute croiser l'ombre de Claude Lévi-Strauss. Merci encore à vous en tout cas d'être venu nous rendre visite aujourd'hui à Inter. Il est 18h31, la revue de presse internationale. Revue de presse internationale.
Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Bonsoir Omar Waman.
Berlin, bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Washington, Frédéric Arbonne, France Inter.
Bonsoir, heure de Paris, bonjour heure de chez vous. La revue de presse des correspondants d'Inter, avant de filer à Londres, rejoindre Antoine Gignot, direction Berlin. Bonsoir Cyril Sauvageau.
Bonsoir.
Les relations Allemagne-Turquie toujours à la une de la presse chez vous, Cyril, après l'annulation de plusieurs meetings de soutien au président turc Erdogan.
Il faut tenir tête au régime Erdogan. Ce sont les résultats d'un sondage pour le journal Die Welt. Une majorité des Allemands interrogés veulent plus de fermeté de la part d'Angela Merkel. Ils sont même 9 sur 10 à se dire opposés à la tenue en Allemagne de ces meetings avant le référendum sur l'extension des pouvoirs présidentiels en Turquie. Depuis la semaine dernière, plusieurs meetings ont donc été annulés à Hambourg, à Cologne, ce qui a provoqué la colère du président turc qui dénonce des pratiques dignes du nazisme. Tout cela amuse beaucoup le journal satirique Der Postillon qui ironise, je cite, sur ce monsieur à moustache en train de transformer son pays en dictature et qui se permet de nous traiter de nazis. Et la communauté turque d'Allemagne, que pense-t-elle de tout cela? Le magazine Bento, un site d'info destiné à la jeunesse, est allé voir plusieurs jeunes turcs allemands assez divisés sur la question. D'un côté, il y a Betül, 21 ans, étudiante à Aix-la-Chapelle. Ne lui parlez pas de ce référendum, je trouve ça terrifiant, dit-elle, qu'on me demande d'aller me prononcer sur l'avenir de la Turquie alors que je suis née en Allemagne, que j'y vis et que j'y étudie. À l'inverse, Samet, un Berlinois de 22 ans, s'y intéresse de près. Il ira voter le 16 avril. Et même s'il n'est pas pro-Erdogan, il trouve dommage que des meetings soient annulés. Où est le danger, se demande-t-il? Et pourquoi, dans ce cas, les populistes de Pegida peuvent-ils défiler, eux, librement dans les rues?
Alors, également à la presse, dans la presse chez vous, et c'est peut-être la prochaine étape de la transition énergétique allemande, Cyril, un projet d'île artificielle en mer du Nord pour produire de l'électricité à très grande échelle.
Oui, l'Allemagne, le Danemark et les Pays-Bas, trois pays vont s'associer d'abord pour étudier la faisabilité de ce projet. Une île artificielle donc de 6 km carrés, aménagée sur un banc de sable à 100 km à l'est des côtes britanniques. Une île qui serait dotée à l'avenir donc de son propre port et d'une véritable centrale électrique en pleine mer, entourée de centaines d'éoliennes. Elle pourrait produire sur place de l'électricité pour 80 millions d'Européens. Le principal avantage, écrit le magazine The Local, c'est qu'une production sur place, la proximité immédiate avec les éoliennes, car aujourd'hui l'éolien offshore est considéré comme la plus efficace des énergies renouvelables en termes d'énergie produite, mais les coûts d'entretien sont énormes et l'acheminement de l'électricité constitue un véritable défi. Alors pour l'instant, cette île artificielle ressemble un peu à de la science-fiction, reconnaît un ingénieur danois à l'origine du projet, mais c'est peut-être l'énergie du futur.
Et on termine avec le trophée de la honte, Cyril, pour l'aéroport de Schönefeld à Berlin. Il vient d'être classé pire aéroport au monde.
Oui, les touristes qui viennent passer le week-end à Berlin le connaissent bien, cet aéroport. C'est l'aéroport des compagnies low-cost au sud-est de la capitale, avec son design années 80, son terminal minuscule, ses 3 ou 4 boutiques qui se battent en duel. C'est vrai que l'aéroport de Schönefeld fait peine à voir. Et donc, eh bien, il vient d'être carrément classé pire aéroport du monde. Je vous avoue que j'ai pas tous les détails des critères pour ce classement, mais en tout cas, c'est une étude du site de voyage eDreams, qui est relayée par beaucoup de journaux allemands, comme le Berliner Morgenpost, qui observe que l'autre aéroport de Berlin, celui de Tegel à l'ouest, est guère mieux loti. Il figure lui aussi dans ce redoutable top 10 des installations indignes d'une grande capitale, alors que l'ouverture du futur grand aéroport de Berlin est sans cesse retardée. Le patron du chantier a dû quitter son poste il y a encore quelques jours. L'inauguration n'aura pas lieu avant l'été 2018, au bas mot. Consolation pour les Allemands. Deux autres aéroports du pays, Munich et Francfort, figurent dans le top 10 des meilleurs aéroports.
Nous voilà rassurés. Merci Cyril Sauvageau en direct de Berlin. Et bonsoir Antoine Gignot.
Et bonsoir.
En direct de Londres au Royaume-Uni, Antoine, on fait plus que jamais des pronostics.
Dans un pays où chaque ville, chaque quartier a son bookmaker, 9 mois après le référendum sur le Brexit, les Britanniques parient sur la date du divorce entre Londres et Bruxelles avec ce titre « Quand ?» qui s'affiche à la une du Financial Times. Analyse presque jour par jour des possibilités. Theresa May a promis que ce serait avant fin mars, mais le 25 mars, c'est le 60e anniversaire du traité de Rome et de la création de la Communauté économique européenne. Il y a des limites à la provocation. Ce serait dommage, peut-on lire, de risquer de se fâcher avec Bruxelles avant le début des négociations. Le souci, c'est qu'il n'y a aucun moment idéal, analyse le quotidien économique. La première ministre doit attendre que le projet de loi sur le déclenchement des négociations soit validé par le Parlement, ça ne sera sans doute pas avant mardi, et dès le lendemain, le 15 mars, il y a des élections aux Pays-Bas, avec possiblement une percée de l'extrême droite et le retour du débat européen sur l'immigration. Le gouvernement britannique risque d'être assimilé aux extrémistes bataves, le terrain est glissant. Alors jeudi, peut-être, ou vendredi, Sauf qu'en fin de semaine, les nationalistes écossais se réunissent à Aberdeen pour leur congrès annuel et qu'ils utiliseraient le Brexit comme tribune pour faire entendre au monde entier leurs envies d'indépendance. Le terrain est tellement miné que l'agenda des jours qui viennent ressemble à une grille de bataille navale.
Et les nationalistes écossais ont déjà commencé à sortir les canons ?
Et les barils de poudre avec cette interview de Nicola Sturgeon, première ministre indépendantiste enregistrée par la BBC à l'automne, mais dont les premiers extraits viennent de sortir opportunément. Le meilleur moment, dit-elle, pour réclamer un référendum, ce sera en 2018, au moment des négociations entre Bruxelles et Londres. On aura beaucoup plus de poids, ce serait un levier, dit-elle, pour convaincre les habitants que l'indépendance est la seule solution pour garder un accès au marché commun et garder des frontières ouvertes. Car c'est l'autre préoccupation. À lire dans le Guardian, l'Agence nationale britannique pour l'emploi tire la sonnette d'alarme. Si les immigrés européens arrêtent de venir travailler au Royaume-Uni, toute l'économie va ralentir. Et le directeur de l'agence raconte, nous avons essayé de mettre en place un plan pour favoriser l'embauche des travailleurs locaux dans les exploitations agricoles des Midlands. Ça a marché au début, mais au bout d'un mois, 75% des Britanniques avaient arrêté de bosser. Le travail était trop dur pour eux. Interview édifiante, complétée par le témoignage de la directrice des ressources humaines de la chaîne de restaurants Prêt-à-Manger. Elle était interrogée hier à la Chambre des Lords. 65% de nos employés, dit-elle, ne sont pas britanniques et on ne peut pas en embaucher plus. 2% seulement des CV qu'on reçoit sont envoyés par des Britanniques. Pourtant, le salaire avec les bonus dépasse au bout de quelques années 3 500 € par mois. Ce n'est pas un problème de finances.
Et pour finir, Antoine, un trou pour se cacher la tête et faire l'autruche.
Absolument. C'est un clin d'œil. Avant de refermer cette revue de presse, il faut aller voir les images sur le site du Daily Telegraph. Ça se passe dans le centre de l'Angleterre, dans les champs, entre Birmingham et Stoke-on-Trent. À l'extérieur, un trou dans la terre, pas plus gros qu'un terrier de lapin. Et à l'intérieur, un véritable temple souterrain avec des galeries, des colonnes, des chapiteaux, des niches, des dessins un peu partout. Un décor fantomatique éclairé par des dizaines de bougies. Selon les archéologues, les grottes ont été creusées il y a plus de 700 ans par les Templiers et elles auraient été utilisées récemment encore par des adeptes de la magie noire au pays des Hobbits et d'Alice au pays des Merveilles. Il y a donc plus que jamais de la vie sous terre ici au Royaume-Uni.
Fascinant. Antoine Gignot en direct de Londres. Merci.
Ventiladas 4 minutos.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Ailleurs dans le monde, Michael Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer Michael, direction Mossoul, deuxième ville d'Irak où les combats contre Daesh continuent.
Les combats pour tenter de libérer la partie ouest de la ville, toujours aux mains des djihadistes. La deuxième phase de l'opération a commencé il y a un peu moins de 3 semaines maintenant, mais les troupes irakiennes progressent très lentement, les civils fuient les quartiers au fur et à mesure de l'avancée et les dégâts dans la ville sont très impressionnants. Bonsoir Étienne Menin.
Bonsoir Mickaël.
Envoyé spécial de France Inter à Mossoul Ouest. Alors où en est-on Étienne de la progression de l'armée irakienne ?
Eh bien, quand on monte dans les blindés américains, des forces irakiennes qui ont mis pied dans la ville, on perçoit assez vite la difficulté. Les combattants avancent, mais ils ont du mal à sécuriser les secteurs dans lesquels ils progressent. La résistance est efficace. Les hommes du groupe État islamique possèdent des armes lourdes. Ils utilisent les bombes roulantes et les voitures civiles piégées qui restent stationnées dans la rue en attendant le passage des Irakiens. Cette bataille se fait donc maison par maison, explique Taher al-Kinani. Il commande le régiment des forces spéciales de Kirkouk.
On est très très proche, quelques mètres, une centaine de mètres peut-être. Et là, on n'utilise pas des armes lourdes, on utilise des armes légères. Les accrochages ont parfois lieu dans les quartiers, dans les rues et dans les maisons.
Voilà, maison par maison, hein, dit ce haut gradé. Mais reste-t-il, Étienne, des habitants dans les secteurs libérés ?
Il y a deux mouvements pour la population dans cette guerre. Sur les collines poussiéreuses de l'Ouest, on voit des familles qui partent en colonne, les mains vides, épuisées. D'autres, par contre, ont choisi de rester dans les quartiers qui sont sécurisés. Et on découvre avec eux la terreur qui a précédé l'offensive quand les combattants djihadistes ont fait leur entrée dans ces quartiers périphériques.
Il y avait aussi des kamikazes avec des ceintures d'explosifs autour de la taille. Nous, on restait à l'intérieur de la maison, on fermait les portes et on ne disait rien. Ils ont forcé certaines familles à quitter leur maison pour s'y installer à leur place. Et après leur départ, ils ont mis le feu à ces maisons et aux voitures. On sortait très peu à ce moment, quand il y a eu des accrochages. On sortait plus du tout.
Et on comprend leur terreur, hein. Dans quel état est aujourd'hui la ville ?
Elle a beaucoup souffert des combats dans le quartier commerçant de Dawassa, par exemple, près du centre. Des immeubles entiers ont été soufflés par l'aviation. Les grands axes sont labourés, les commerces sont ravagés, les bombardements sont par endroits massifs. Ahmed Awad en a souffert, mais il en défend l'efficacité.
Les bombardements étaient intenses. Mais c'est comme ça que l'aviation chasse les djihadistes. Ça les fait passer d'une maison à l'autre, sinon ils resteraient dans le quartier. Parfois, ils étaient coincés dans une maison et il fallait que les avions les pilonnent. Moi, pendant ces bombardements, j'étais dans ma maison, je me cachais sous les escaliers. Pendant 12 jours, on sortait juste pour manger. Si on s'était montré, ils auraient été capables de nous accuser de collaboration avec l'armée. Vous savez, ils avaient cassé tout ce qui permettait de communiquer, comme les radios, les télévisions, les paraboles, tout, je vous dis, tout.
Et comment se passe, Étienne, l'arrivée des troupes chiites dans ces quartiers sunnites de Mossoul qui s'étaient justement rebellés en 2014 ?
Les officiels répètent qu'ils mènent cette opération pour libérer la population. Sur ces quelques jours dans Mossoul, nous n'avons pas vu d'accrochage ou de véritables tensions. Mais les sentiments sont très forts contre ceux qui sont accusés d'avoir collaboré. Abu Jabbar est chiite, il appartient à la police fédérale.
On ne va pas leur pardonner. On n'aura aucune pitié envers eux. Ceux qui ont aidé Daesh, leur sort ce sera l'enfer, le feu. On va les insulter, les humilier, ils finiront en prison.
Il y a donc un contrôle qui est fait par les services de renseignement quand les gens quittent la ville.
Étienne Monin, envoyé spécial de France Inter à Mossoul Ouest. Merci beaucoup, Étienne.
Et l'on parle maintenant de Donald Trump, Michael, ou plus exactement de son principal conseiller à la Maison-Blanche.
J'ai nommé Steve Bannon, nommé haut conseiller, chef de la stratégie du 45e président des États-Unis. Lui, l'ancien responsable du site ultra-conservateur Breitbart News, site référence de l'alt-right, le mouvement des suprémacistes blancs. Lui qui a littéralement tiré les ficelles de la campagne de Donald Trump. Eh bien, on connaît, Nicolas, le livre de chevet de Steve Bannon, et il est français, un roman publié en 1973, Le camp des saints de Jean Raspail, l'histoire d'une invasion de migrants dans le sud de la France, roman devenu en quelques années un ouvrage de référence pour de très nombreux mouvements d'extrême droite, un peu partout dans le monde, y compris ici en France, régulièrement cité par Marine Le Pen, et donc aussi par Steve Bannon. Le camp des saints aurait même inspiré le décret migratoire de Donald Trump. Pour en savoir plus, Franck Madvon a rencontré l'auteur lui-même, Jean Raspail, chez lui à Paris.
Jean Raspail vit dans un immeuble cossu du 17e arrondissement de Paris.
Oui, c'est au 4e.
Grand, élégant, veste sombre, fine moustache blanche, l'écrivain ne fait pas ses 92 ans. Il prévient, sa mémoire le trahit parfois. Elle lui fera pourtant à peine défaut. Un livre est posé sur son bureau.
C'est le camp des saints, bien entendu. C'est la dernière édition française, celle-là.
Une édition vendue à 60 000 exemplaires depuis 2011, un énorme succès. Jean Raspail vient d'apprendre que Steve Bannon, le conseiller de Donald Trump à la Maison-Blanche, citait souvent le camp des saints pour dénoncer les risques d'une immigration incontrôlée. Exemple, ces deux extraits d'interview conduites par Bannon sur le site ultra-conservateur Breitbart.
Le grand sujet en Europe, c'est l'immigration. C'est un problème mondial, un camp des saints mondial. Le problème d'immigration, c'est une invasion. J'appelle ça le camp des saints.
Jean Raspail n'est pas surpris.
Ça ne m'étonne pas. Je sais que d'autres présidents l'ont lu. Reagan, le président Reagan, avait lu le camp des saints. En France, Mitterrand l'avait lu.
L'extrême droite française se réfère aussi au brûlot. Ici Marine Le Pen en 2015 sur Radio Classique.
Avec une véritable submersion migratoire. Enfin, j'appelle tous ceux qui nous écoutent à lire ou à relire Le camp des saints de Jean Raspail.
Le livre raconte une apocalypse. 1 million de migrants venus des Indes débarquent dans le sud de la France pour envahir le pays et détruire la civilisation occidentale chrétienne. Une œuvre raciste pour beaucoup, Jean Raspail s'en défend.
Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Ce n'est pas un mode d'emploi, c'est un roman.
Mais Raspail admet que Le camp des saints ne pourrait pas être publié aujourd'hui. Le récit va trop loin. L'écrivain assume pourtant des convictions très à droite.
On a le droit de fermer nos frontières et à mon avis, on a le devoir de le faire.
Est-il fier du camp des saints ?
Fier ? Non. J'ai été utile. Parce que j'ai pris à bras le corps, sans même en apercevoir, ce qui est, était et sera encore très longtemps le problème majeur du monde occidental. Ouvrez les journaux, c'est le camp des saints.
Et le livre n'est pas un succès qu'en France et aux États-Unis. Il se vend par exemple très bien en Allemagne.
Un reportage signé Franck Madvon.
Et pour finir, Michael, hein, je me souviens béninois.
Et ces vagues langoureuses que vous entendez, Nicolas, ce sont celles de la plage de Ouida, à 40 km de la capitale économique du Bénin, Cotonou, véritable paysage de carte postale. Sauf que c'est d'ici, entre le XVIIe et le XIXe siècle, que sont partis vers l'Amérique des centaines de navires, les cales remplies d'esclaves. Près de 2 millions de personnes au total déportées en un peu plus de 200 ans. Et bien aujourd'hui, le nouveau président béninois, Patrice Talon, élu l'an dernier, veut classer ce site au patrimoine mondial de l'UNESCO, restaurer toute la ville, la rendre accessible pour en faire un haut lieu du tourisme mémoriel. Bonsoir François-Xavier Frelan.
Bonsoir Michel, bonsoir à tous.
Alors vous rentrez tout juste du Bénin, où les autorités semblent donc réellement décidées à faire revivre ce pan de l'histoire, longtemps dénigré ou volontairement oublié, François-Xavier.
Oui, alors faut savoir que c'est seulement depuis la construction par l'UNESCO en 1995 d'un monument en hommage aux victimes, la fameuse porte du non-retour, que des milliers de touristes afro-descendants d'Amérique ou d'Europe viennent fouler donc ici la terre de leurs ancêtres. Il y a aussi chaque week-end beaucoup de classes scolaires, on vient de les entendre, des enfants derrière. Alors, le trafic a été abandonné à la fin du 19e siècle, avec évidemment l'abolition de l'esclavage. Il y avait à l'époque plusieurs forts, un fort anglais, un fort français et bien sûr un fort portugais. Chacun servait de lieu d'internement pour les esclaves. Et tous ces lieux ont pour la plupart été brûlés, détruits par les colons eux-mêmes lorsqu'ils ont quitté Ouida. Et jusque dans les années 80, c'est-à-dire 20 ans à peu près après l'indépendance, il y avait une telle amnésie sur cette histoire, ce crime contre l'humanité, que les entrepreneurs continuaient de faire fructifier leurs affaires français, d'ailleurs, ou béninois, sur cette plage, la même où il y avait eu la déportation. On écoute à ce propos Geoffroy, guide et jeune historien de Ouida.
Juste après l'installation d'un projet français en 1983, et ce projet est dénommé Sobecel. Et il servait de l'océan Atlantique pour pouvoir extraire du sel. À la date d'inauguration du monument, les travaux ont été arrêtés parce qu'ils se sont installés sur un lieu de mémoire. Donc là, en fait, on a un bâtiment qui est enfoncé au sol, mais ça n'a rien à voir avec l'esclavage ni le vaudou.
Et cette maison qu'on voit là-bas ?
Le bâtiment, c'était le comptoir des esclaves. Monsieur Kodja Antoine voulait s'en servir du bâtiment comme un restaurant en VIP, entouré de ses bungalows pour les hébergements. Mais jusqu'à nos jours, ça n'a jamais servi à aucun touriste.
Voilà, commerce du sel pour les uns, grand projet touristique pour d'autres. Comment expliquer, François-Xavier, un tel déni en fait ?
Il y a plusieurs interprétations. Là, on se retrouve donc dans les rues de Ouida. D'abord, vous savez qu'il a fallu attendre des années avant que la traite négrière ou le commerce des esclaves ne soit enfin considéré comme un crime contre l'humanité. Et puis, autant de la part des colons que des familles métisses, régnantes locales, descendantes par exemple de Francisco Félix de Souza, le plus riche trafiquant d'esclaves de la ville, il était d'origine brésilienne, et bien tous ont continué de vivre à Ouida et de faire prospérer leurs affaires après l'arrêt du trafic, comme si de rien n'était, à tel point que vous avez même des lieux de culte dans la ville, des mausolées en mémoire à ce sinistre personnage. Et la légende en a fait même un type presque sympa, à en croire un des descendants de la famille, Galbert de Souza, un esclavagiste modéré, on va dire, on l'écoute.
Bon, quand lui, il était arrivé, il a pris une mesure un peu moins néfaste aux esclavages qu'ils envoyaient à l'époque. Bon, la manière dont traitaient les esclaves à l'époque, c'est que ça a fait pitié, quoi. Et puis maintenant, il a voulu structurer d'une manière un peu acceptable.
Et ce mausolée, c'est quoi ?
Son mausolée ? Mausolée, là, c'est le 8e tchatchara, son mausolée. Lui-même, son mausolée, c'est derrière là-bas, mais nous n'avons pas la clé avec nous.
C'est quoi le 8e tchatchara ?
8e tchatchara, il y a le tchatchara premier. Le Don Francisco Félix, de César, quand il était arrivé, il a pris un surnom. Le surnom là qui s'appelle Tchatcha, la rapidité quoi. Quand les bailleurs de fonds arrivaient à l'époque, bon, faire rapidement pour qu'on fasse l'opération rapidement, c'est ça. Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha, quoi, rapidité, quoi, fais ça rapidement.
Voilà, le culte de tcha-tcha. Alors, rien à voir, évidemment, avec la musique. Là, on parle du plus grand trafiquant d'esclaves de Ouida dans ce Bénin du XVIIIe siècle. Un peu étrange tout de même ce culte. Hein.
Oui, effectivement. Il faut savoir que Francisco Félix de Souza était un métis, à la fois descendant de trafiquants d'esclaves et donc d'une mère esclave. Et Ouida, c'est aussi un haut lieu du culte vaudou, le culte aux ancêtres. En tout cas, c'est l'ambiguïté, le lieu de tous les paradoxes par excellence, Ouida. Vous avez plusieurs de Souza, descendants directs donc du fameux, qui ont été ministres dans l'histoire. Je vous propose d'écouter aussi Marie-Cécile Zinsou, directrice du musée d'art contemporain de Ouida, fille du candidat malheureux Lionel Zinsou, aux dernières présidentielles de mars 2016 au Bénin. On l'écoute.
Il se trouve qu'on est dans un pays où on a une histoire, on a des descendants de négriers. Ce qui est intéressant, c'est que cette histoire, on la connaisse, on la maîtrise et on en fasse quelque chose. Mais il y a le descendant des gens qui tenaient le fort français et qui ont réussi à maintenir le commerce des esclaves jusqu'à après l'abolition, occupe des très hautes fonctions dans ce pays.
Alors j'ai cherché Michael et ça n'a pas été très compliqué. Il s'agit ni plus ni moins que de la famille du président actuel Patrice Talon, dont l'aïeul Pierre fut en 1797 un des plus actifs commerçants d'esclaves de Ouida. Alors disons que c'est tout à l'honneur du président actuel de vouloir réhabiliter ce haut lieu d'histoire douloureuse et ambiguë, car on le sait, pas de pardon sans reconnaissance, Michael.
De retour de Ouida, François-Xavier Frelan, merci beaucoup. Et à noter, je vous fais un peu de pub, allez François-Xavier, qu'on peut aussi vous lire dans un très beau roman, Les Amants Tristes, chez Librinova.
À lundi, Michael.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le monde.
Musique à 18h52, on se penche ce soir sur la carrière romanesque d'une chanteuse américaine. Mathieu Culeron, bonsoir.
Bonsoir.
Valérie June sort son quatrième album intitulé The Order of Time. La chanteuse est née, Mathieu, dans une famille de musiciens.
Oui, Valérie June est originaire de Jackson, près de Memphis, dans le Tennessee. La musique est chez elle une histoire en effet de famille. Son père est notamment promoteur de musique. Il a travaillé entre autres avec Bobby Womack ou encore Prince. Et c'est en 2009 que la vie de la chanteuse bascule. Elle fait déjà de la musique depuis 10 ans quand elle tombe gravement malade. Les médecins diagnostiquent un diabète qui l'épuise. Une maladie qui finalement l'a forcée à devenir une professionnelle de la musique. Elle y voit, elle, un signe du destin.
Lorsque j'ai eu 27 ans, je suis tombée gravement malade. Et soudain, je ne pouvais plus travailler aussi dur qu'avant. Mais ce que je pouvais encore faire, c'était me mettre dans un coin de restaurant ou de bar et chanter. Rester assise là pendant une heure et jouer. Mais je ne pouvais plus rester debout et travailler dur. Donc, ma vie a totalement changé à cause de cette maladie. Mais ça a été aussi une bénédiction, car sinon, je ne serais pas devenue chanteuse et je n'aurais pas arrêté mon travail.
Long Lonely Road, extrait de ce nouvel album de Valérie June, au parcours exceptionnel, hein, Mathieu.
Oui, on pourrait presque écrire un roman sur sa vie, tant elle est faite de rebondissements, de drames et de bonheur. Valérie June qui décide de financer son nouvel album par elle-même, mais finalement, elle devra faire appel à un financement participatif sur Internet, car une fois de plus, elle est rattrapée par la maladie et d'une certaine façon par la société américaine.
Mon but était d'économiser 50 000 dollars. Pour sortir moi-même ma musique sans label, payer les musiciens, payer la location du studio. Mais à cause de la maladie, j'ai dû utiliser cet argent pour me payer une sécurité sociale. Tout simplement, car je vis dans un pays où je dois payer de ma poche pour me soigner. Une sécurité sociale, une mutuelle, coûte aux États-Unis plus de 1000 dollars par mois. J'ai donc dû mettre tout mon argent pour ma santé.
So I had to spend all the money taking care of my health.
The Fondor de Valérie June qui, dès qu'elle le peut, Mathieu, prend la parole pour la paix, pour la résistance.
Oui, Valérie June est une fan des grandes voix comme Nina Simone, Bob Marley ou encore John Lennon. Et surtout, plus que tout, elle aime les grands combats qu'ont menés précisément ces artistes-là.
Ce rêve que Martin Luther King a eu et les choses que chante John Lennon dans sa chanson Imagine sont réelles. On a peut-être besoin de gens comme moi pour rappeler ces valeurs. On s'inquiète tellement de Donald Trump.
Donald Trump, oh my God!
Mais en fait, on peut faire ce qu'on veut, comme le disait Obama. Et oui, on peut s'entendre, même si nous ne sommes pas de la même religion, du même genre. On peut s'entendre. Je pense qu'on peut y arriver. Je ne crois pas que ce soit une idée de hippie.
I don't think it's only hippie stuff, you know. What you
believe. Valérie June en concert le 19 avril à Nantes, le 20 à Paris, le 21 à Tourcoing. Merci Mathieu Culleron.
France Inter, le 18-20. Un jour dans le
monde. Et bonsoir Anthony Bélanger.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Une seule question, pourquoi donc l'Égypte a-t-elle créé une agence spatiale ?
Alors avant de répondre, imaginez un joli immeuble de verre bleuté installé dans la banlieue du Caire avec un beau logo en arabe et en anglais. Le tout flambant neuf, qu'on se le dise, l'Égypte enverra bientôt ses propres satellites dans l'espace et avant peut-être d'envoyer ses propres fusées. Le problème, c'est qu'à chaque fois que l'Égypte a voulu s'aventurer dans l'espace, elle a fait chou blanc ou plutôt badaboum. La dernière fois, c'était en 2010, lorsque le pays a perdu son premier satellite non commercial, un satellite espion en somme. C'était lancé 3 ans plus tôt par l'Ukraine. Quant au programme spatial égyptien, c'était un serpent de mer sans queue ni tête depuis les années 60.
Alors pourquoi insister, Anthony, et surtout pourquoi maintenant ?
Pour plein de mauvaises raisons. La première, c'est que rien ne marche en ce moment en Égypte. Tous les méga-projets gouvernementaux, certains diront les éléphants blancs, sont des gouffres financiers et ou des accidents industriels. Un exemple, l'Égypte du maréchal Al-Sissi a doublé le canal de Suez. Vous vous souvenez, le banc et l'arrière-banc des leaders mondiaux, François Hollande en tête, assistant à l'inauguration de cette gigantesque infrastructure creusée en un an pile, mieux que les pyramides. 8,5 milliards de dollars investis, qui devait rapporter gros et vite en droits de péage et taxes, 13 milliards de dollars l'an à compter de 2023. Le résultat n'est pas seulement décevant, il est épouvantable. Pour le premier mois de 2017, les rentrées ont même diminué par rapport à 2016. Il fallait donc trouver vite un projet pas cher qui fasse rêver un peu et qui donne l'impression que l'État égyptien n'est pas totalement failli. Mettre l'Égypte en orbite, c'est parfait. 6 mois plus tard, un immeuble est choisi et hop, l'affaire est pliée.
Et j'imagine, Anthony, que les militaires adorent le projet.
Ah, ils adorent ça, effectivement. Qui va vérifier ce que fera l'agence spatiale égyptienne des millions de dollars que l'État s'apprête à y investir ? Qui pourra dire si les études commandées seront réalisées ? En clair, c'est un bon moyen de caser, vous savez, de cadet des fils de mon général ou le neveu de mon colonel. Ensuite, tous les pays du coin ont leur programme spatial. Quand je dis tous les pays, je parle surtout des monarchies du Golfe, vous savez, Émirats Arabes Unis et Arabie Saoudite. Pas question pour l'Égypte de se faire tailler des croupières par les Bédouins. Et en plus, ça fait diversion, un programme spatial. Tiens d'ailleurs, je viens de passer presque 3 minutes à vous parler de satellites et de fusées égyptiens qui ne verront probablement jamais le jour, alors que la vraie actualité au Caire, ce sont des manifestations quasi quotidiennes partout dans le pays pour du pain. Parce que pendant que des petits malins de la com imaginaient un logo pour cette agence spatiale, eh bien le gouvernement réduisait les subventions. Désormais, les boulangeries égyptiennes ne recevront de subventions que pour 500 pains quotidiens contre 4000 auparavant. Alors, on attendra un peu avant de se réjouir ou plutôt de voir des Égyptiens envoyés dans l'espace.
Merci Anthony Bélanger. Un mot du téléphone sonne à 19h20, un invité unique, Lionel Nakache, spécialiste du cerveau. Il publie Le Chant du Cygne, aventures et mésaventures de nos interprétations quotidiennes. C'est chez Odile Jacob. Toutes vos questions sur le cerveau, 01 45 24 7000.